Excellente journée à vous tous. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Voilà, il est 8h. Eh ouais, j'ai pas l'habitude de me lever tôt. Je m'appelle pas Cyril. Non, moi c'est Caroline.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Un regard sur l'actualité de ce mercredi 19 mars avec Guillaume Abbé. Bonjour.
Bonjour Caroline, du coup, bonjour tout le monde. Le projet AOMC 2030 entre dans une nouvelle phase. Les travaux de sécurisation entre Colombey et Monté vont officiellement démarrer à la suite de la levée des oppositions. Les transports publics du Chablais peuvent aller de l'avant avec ce chantier majeur qui doit permettre d'améliorer la mobilité régionale. Parmi les transformations prévues, une gare souterraine à Colombey, un pôle de transport à Monté qui réunira la ligne du Tonkin et celle de l'AOMC, ainsi qu'un réaménagement de l'ancien tracé pour favoriser la mobilité douce. Ce nouveau tracé de 4,3 km, dont 1 km en souterrain, offrira un gain de temps et une cadence améliorée aux 2 heures de pointe. Devisé à 210 millions de francs, dont 3% la charge de la ville de Monté et 1,5% de la commune de Colombey, le projet est sujet à critique quant à son coût élevé en comparaison à ce qu'il amène comme amélioration. La réponse à ce sujet de Grégoire Prat, directeur des TPC.
Toujours considérer cet investissement d'une manière globale. Il faut penser que sur le réseau actuel, on devrait le remettre en état. Donc c'est une ligne qui a plus de 100 ans. On a des haltes et des gares qui ne sont pas conformes, hein, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite, on doit les mettre en conformité. Par exemple, la gare de Montéville, pour la mettre en conformité, c'est vite des montants très importants. Avec ce projet, on arrive avec des gares conformes, avec une ligne sécuritaire, avec vraiment un confort qui est accru pour tous nos clients. On va gagner en temps de parcours, on va sécuriser surtout le tronçon. On est vraiment séparé entre la partie ferroviaire et la partie route. Et en cumulant finalement ces coûts qu'on aurait eu pour faire tout ça, on arrive vite à des montants importants. Finalement, la partie amélioration et développement reste petite dans ces 210 millions, mais c'est plus une mise en conformité aussi de cette partie.
Grégoire Prat, interrogé par Ludovic Turin, et noté que la première mise en service est prévue dès fin 2028 et concernera le tracé Monté-Aigle. À Chardonne, le projet d'agrandissement de la grande salle est actuellement mis à l'enquête. Un investissement de quelques 8 millions de francs qui permettra de rénover le bâtiment construit en 1911 et agrandi dans les années 60. Cette nouvelle salle sera non seulement un lieu pour toutes les sociétés locales, mais aussi une jolie vitrine pour Chardonne, selon la syndicaliste Raymond.
La grande salle de Chardonne, elle est placée à l'entrée de Chardonne quand on arrive depuis Chèbre. Et c'est vraiment d'avoir la première vision de Chardonne, un beau bâtiment, et c'est la carte d'entrée pour Chardonne. Et là, ça fera comme un phare au milieu du village où les gens ils pourront venir, ils pourront se retrouver, ils pourront fêter, danser, chanter, vraiment vivre pleinement et puis avoir plein d'activités là-dedans.
Des propos recueillis par Léa Journaux. La mise à l'enquête doit se terminer le 3 avril prochain. La municipalité chardonnerette espère pouvoir débuter les travaux en 2026. La lecture s'invite dans les écoles de la région. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, les élèves romans plongent dans l'univers des bouquins à l'occasion de la semaine romande de la lecture, portée par le syndicat des enseignantes et enseignants romands, le SER. Cette initiative mobilise chaque année des centaines de classes autour d'activités ludiques et pédagogiques. Objectif, stimuler le plaisir de lire dès le plus jeune âge, car si les fondamentaux, lire, écrire, compter sont en place, faire aimer la lecture reste un défi. Les précisions de David Ray, président du SER.
On a déjà tout un programme qui est établi au niveau des plans d'études, la scolarité, pour justement développer les compétences en lecture. Donc la compétence, normalement, elle est là. Mais après, pour vraiment pouvoir poursuivre ce travail, c'est important de donner ce goût à la lecture aux jeunes pour qu'ils réalisent cette activité en dehors de l'école, aussi à la maison, prendre l'habitude de lire même des choses relativement simples à la maison. C'est vraiment important. Donc pour nous, on a vraiment essayé de développer cet aspect plus du plaisir plutôt que simplement des activités contraignantes très scolaires.
Des propos recueillis par Julie Gué, le site officiel de la SRL. La semaine romande de lecture offre une présentation détaillée de l'événement, des informations sur l'édition 2025 ainsi que des archives des éditions précédentes remontant jusqu'à 2014. Absente pour une maladie de courte durée, Valérie Dietli, chef du département vaudois des finances et de l'agriculture, n'a pas participé hier à la séance du Grand Conseil vaudois. Son collègue suppléant, le chablaisien Frédéric Borloo, l'a remplacé au pied levé. Cette absence intervient alors qu'un rapport sur d'éventuels dysfonctionnements au DFA a été commandé par le Conseil d'État à Georges Touder, ancien conseiller d'État neuchâtelois. Son contenu, qui doit bientôt être publié, fait l'objet de spéculations. La majorité bourgeoise du Conseil Conseil national ne veut pas d'un impôt sur les héritages de plus de 50 millions de francs pour financer la transformation écologique et climatique. Il a rejeté par 132 voix contre 49 une initiative populaire des jeunes socialistes sans lui opposer de contre-projet moins radical. Il y a en Suisse 2500 personnes qui disposent d'une fortune de plus de 50 millions. Taxer les successions des riches n'est pas une bonne idée pour la conseillère nationale libérale radicale vaudoise Jacqueline de Quattro.
Le problème est le suivant, c'est que ce ne sont pas tellement les riches pollueurs que vise la jeunesse socialiste qui en souffrirait le plus, mais ce seraient les entreprises qui risquent d'être délocalisées parce que la succession va devenir extrêmement compliquée et très très onéreuse. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises qui ont peur de l'effet rétroactif annoncé de l'initiative et qui envisagent de partir à l'étranger. Et en plus de ça, ce seraient les rentrées fiscales qui manqueraient cruellement non seulement à la Confédération, mais aussi au canton et aux communes.
Propos recueillis par notre correspondant sous la coupole Serge Jubin. Le Conseil des États doit à son tour examiner l'initiative dite pour l'avenir des jeunes socialistes et c'est au final le peuple qui tranchera. À l'étranger, les rebelles Houthis au Yémen ont affirmé aujourd'hui avoir mené une quatrième attaque en 72 heures contre le porte-avions américain USS Harry Truman en mer Rouge. Selon des médias locaux, les États-Unis ont procédé à de nouvelles frappes au Yémen. Les autorités russes ont fait état tôt ce matin d'un incendie d'un dépôt de pétrole de la région de Krasnodar, à l'est de la frontière avec l'Ukraine côté russe, à la suite d'une attaque de drones ukrainiens. Quelques heures après l'annonce par Washington et Moscou d'un accord en vue d'une trêve limitée, la Russie a poursuivi hier soir ses bombardements en Ukraine. Un hôpital a notamment été visé, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et enfin, aux États-Unis, une juge fédérale américaine a suspendu hier l'interdiction ordonnée par le gouvernement américain des transgenres dans l'armée. Elle a invoqué le principe d'égalité, citant la déclaration d'indépendance des États-Unis selon laquelle tous les êtres humains sont créés égaux.